VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Course à la Maison Blanche aux États-Unis, le milliardaire républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton continuent aujourd'hui leur campagne pour l'investiture présidentielle dans leurs partis respectifs, après avoir remporté des succès éclatants hier soir dans les primaires de plusieurs États du Nord-Est. Le point avec Jean-Roger Bion, qui commence par les résultats dans le camp républicain.
Le milliardaire Donald Trump a triomphé mardi dans les 5 primaires républicaines organisées sur la côte est américaine, tandis que Hillary Clinton a gagné 4 scrutins démocrates, distançant de façon décisive son rival Bernie Sanders. Donald Trump est arrivé premier dans le Maryland, la Pennsylvanie, le Delaware, Connecticut et Rhode Island. Ses marges de victoire sont formidables, dépassant 50 voire 60% des voix selon les États contre le sénateur du Texas, Ted Cruz, et le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Mais la bataille se déplace maintenant dans des États a priori moins favorables au milliardaire, à commencer par l'Indiana dans une semaine. Pour l'homme d'affaires, l'important n'est pas seulement de gagner les primaires restantes, il lui faudra s'imposer avec un très fort pourcentage dans les 10 derniers scrutins afin d'atteindre les 1237 délégués et de ravir l'investiture de façon incontestable avant la convention de Cleveland au mois de juillet.
Et l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton dans le camp démocrate, quels ont été ses résultats hier soir, Jean-Roger?
Hillary Clinton, quant à elle, a empoché les grands États du Maryland et de la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a gagné que dans le petit État de Rhode Island. Avec ses 4 victoires mardi, Hillary Clinton a engrangé une avance quasi insurmontable sur Bernie Sanders, qui aurait besoin de gagner environ 85% des délégués restants pour la surpasser. S'exprimant à Philadelphie, en Pennsylvanie, où aura lieu la convention démocrate en juillet, Hillary Clinton a affiché la confiance des vainqueurs, entrant en scène au son de « Eye of the Tiger », la chanson du film Rocky, étendant la main aux électeurs de Bernie Sanders. « Que vous souteniez le sénateur Sanders ou moi, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise », a-t-elle ajouté. Et elle a attaqué les républicains et Donald Trump pour leur position anti-musulman, leur déni du changement climatique ou leur contestation du droit à l'avortement.
Merci Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, crise au Burundi, la médiation tanzanienne compte organiser du 2 au 6 mai un dialogue inclusif entre les protagonistes de la crise à Arusha en Tanzanie, ville qui a abrité il y a presque 16 ans les négociations qui ont mis fin à la guerre civile ayant fait 300 000 morts au Burundi entre 1993 et 2003. Le gouvernement burundais campe sur ses positions et refuse de s'asseoir avec les personnes qu'il qualifie de terroristes, mais pour l'opposition, le dialogue sans exclusion reste le seul moyen de mettre fin à la crise en cours. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Des balais diplomatiques se sont succédés l'année dernière et le début de cette année dans la capitale Bujumbura, après la répression des manifestants contre le troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Tour à tour, les délégations de la communauté est-africaine, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies se sont rendues à Bujumbura pour appeler les autorités à trouver une issue à la crise à travers un dialogue inclusif. Mais la réponse a toujours été la même. Le gouvernement burundais ne discutera pas avec les criminels, même si l'invitation leur est arrivée tard. Tardivement mardi soir. Le porte-parole du président burundais ne confirme pas que le gouvernement sera à Arusha dans une semaine. Willy Nyamitwe.
L'invitation nous est parvenue. C'est difficile à mon niveau et à l'heure qu'il est de vous confirmer quelle sera la réponse du gouvernement. Parce que le gouvernement doit d'abord analyser cette invitation, trouver aussi une explication au fait qu'il soit le dernier à être convié à cette session inaugurale du dialogue inter-burundais à l'extérieur. Ce n'est pas le gouvernement qui exclut certaines personnes, c'est la loi, c'est le droit. Ceux qui ont pris la voie de la violence sont exclus par les lois burundaises, mais aussi sont exclus par les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et pour l'opposition burundaise réunie au sein de la plateforme Sénared, qui a dernièrement changé sa présidence et qui lutte pour le respect des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, tôt ou tard, le gouvernement burundais devra s'asseoir avec les opposants. Charles Nditije, président du parti UPRONA, une aile non reconnue reconnu par les autorités de Bujumbura.
Et s'il fallait parler de putschiste, je crois que le premier putschiste, c'est M. Nkurunziza qui a fait un putsch constitutionnel en brigant le troisième mandat et contre la constitution, contre l'accord d'Arusha. La voie qui sauve les uns et les autres, qui sauvegarde la paix et la sécurité, c'est la voie du dialogue, la voie des négociations. Qui le veuille ou non, et tôt ou tard, il finit par comprendre qu'il n'aura d'autre choix que d'accepter de négocier. Et dans pareil cas, on ne négocie pas avec ses amis, on négocie et précisément avec ceux-là et avec vous êtes en conflit pour des raisons politiques.
La crise au Burundi s'aggrave de plus en plus ces derniers temps avec l'assassinat en moins de 36 heures de trois militaires haut gradés. L'Union européenne demande urgemment la reprise d'un dialogue inclusif avec toutes les parties concernées par la crise burundaise qui a fait, selon la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, plus de 700 morts et plus de 4300 prisonniers, sans oublier les centaines de millions de réfugiés éparpillés sur tous les quatre continents. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Soudan du Sud, les Nations Unies réclament la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale après le retour à Djouba mardi de l'ex-chef de la rébellion, Riek Machar, qui est déjà investi comme vice-président, John Lindon.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties de former rapidement le gouvernement de transition. Le représentant adjoint sud-soudanais, Joseph Moun Malok, a répondu que ce gouvernement d'union pourrait être formé dans un jour ou deux après des consultations avec les différentes parties. L'ambassadrice américaine Samantha Power a souligné l'importance de lutter contre l'impunité, car selon elle, il ne peut y avoir de paix sans justice. Hervé Latsou, patron des opérations de maintien de la paix, estime que le retour de Riek Machar à Djouba devrait permettre de commencer la transition. Il a aussi averti que la situation sécuritaire reste précaire et la situation humanitaire s'est aggravée en ampleur et en urgence. Les 15 pays membres du Conseil exigent le respect des droits humanitaires et que les parties facilitent la livraison de l'aide à la population meurtrie et accordent la liberté de mouvement à la mission de l'ONU sur place.
En RCA, la MINUSCA et le gouvernement centrafricain lancent à Bangui les opérations d'identification socio-professionnelle des ex-belligérants. Au moins 3000 ex-combattants de la capitale seront identifiés dans le cadre du processus de DDR. Les opérations se déroulent à Boirab dans le 4e arrondissement où 1500 ex-anti-Balaka devront être recensés. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À la différence des activités du pré-DDR réalisées dans certaines régions du pays, les 3000 combattants attendus à l'issue de cette identification bénéficieront du projet Réduction des violences communautaires. 1500 seront recensés parmi les anti-Balaka et 1500 autres parmi les groupes d'autodéfense de PK5. Pour Diane Corner, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, il s'agit d'un projet très important pour l'avenir des combattants et de leur pays, la République centrafricaine. Satisfaction des membres des groupes armés, estimant que ce nouveau projet pourrait contribuer à la cohésion sociale et changer leur vie en attendant le processus DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement proprement dit. L'opération lancée aujourd'hui dans le 4e arrondissement devra se poursuivre dans le 3e arrondissement et dans les zones périphériques de Bangui. Freeman Sipila, Bangui.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, disparition de 26 pistolets mitrailleurs dans les dépôts d'armes et 25 autres sont portés disparus du commissariat général des armées à Bamako. Le chef d'état-major de la garde nationale a été suspendu de ses fonctions, tout comme le commandant du même groupement. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Depuis l'annonce de la réintégration des ex-combattants dans l'armée, on assiste à toutes sortes de gymnastiques du côté des FAMA que des groupes armés. Chez les FAMA, on assiste à des vols d'armes. Ce sont des militaires maliens qui s'adonnent à cette pratique. Toute chose qui peut dépasser tout entendement, mais qui est une réalité dans les camps, surtout à Bamako. C'est ainsi qu'au niveau du camp de la garde nationale, 26 pistolets mitrailleurs, communément appelés des PM, ont disparu des magasins d'armes. La hiérarchie militaire n'est pas passée par 1000 chemins. Elle a suspendu le chef d'état-major de la garde nationale ainsi que le commandant du même groupement. En tout cas, de leur côté, les chefs rebelles sont en train d'acheter des armes pour les donner à des gens qui ne sont pas des combattants. Après avoir fourni des listes de combattants fictifs dans le cadre de la réintégration des ex-combattants dans l'armée malienne, les ex-rebelles achètent les armes pour deux raisons. Armer les remplaçants des éléments morts ou qui sont retournés dans leur pays respectif. Et donner des armes aux nouvelles recrues qui ont acheté des cartes de combattants dans les régions nord du Mali. Tout cela se passe dans les perspectives du cantonnement ou la réintégration qui se fait sur la présentation d'armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer l'enquête sur les attentats de Paris et de Bruxelles, le parquet fédéral belge a annoncé aujourd'hui la remise à la France de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris et lié aux auteurs de ceux de Bruxelles. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.